Frères et sœurs bien-aimés, nous voici au soir du Jeudi Saint. Dans ce temps du carême, nous avons suivi le Seigneur Jésus dans le désert de ce monde. Nous l'avons rencontré, animé par l'amour qu'il nous porte. Il a vaincu pour nous les tentations et le tentateur. Lorsque nous l'avons contemplé sur cette haute montagne avant qu'il fût transfiguré à trois reprises, lui qui est la résurrection et la vie, avait annoncé à ses apôtres trois fois qu'il allait devoir beaucoup souffrir et le troisième jour ressusciter d'entre les morts. Si les apôtres s'interrogent sur ce que signifie ressusciter d'entre les morts, lorsque le Seigneur réitère ce chemin de souffrance qui doit le conduire à la mort, Pierre prit le Seigneur à part pour lui faire de vifs reproches. Qu'est-ce donc ce chemin de souffrance et de mort que le Seigneur entend emprunter, lui qui doit être reconnu comme le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, le vainqueur, celui qui va chasser l'occupant et rendre sa souveraineté à Israël? Et voilà que le Seigneur lui a dit que ses pensées étaient celles des hommes, non pas celles de Dieu. L'on avait oublié que le Messie, qui devait rendre la vue aux aveugles, et en ce temps du carême, nous avons assisté en un dimanche à cet aveugle de naissance qui a recouvré la vue, anticipant cette vie chrétienne ici-bas où nous croyons sans voir encore. La foi, vous disais-je, qui nous anime ici-bas au ciel ne sera plus, elle fera place à la vision de telle sorte que cet aveugle nous concernait chacun. Si le Messie devait rendre la vue aux aveugles, il devait rendre la mobilisée aux paralysés, et nous sommes chacun paralysés par le péché, comme par la mort, dont nul ne peut se relever. Il devait également nourrir son peuple, et nourrir son peuple, le Seigneur le fit à deux reprises, en multipliant les pains et les poissons. Cependant, devant tant de signes par lesquels on devait reconnaître quel serait le Messie que Dieu enverrait pour sauver son peuple, il y avait également la prophétie d'Isaïe. Isaïe qui entrevoyait que la passion de Dieu qui venait à notre rencontre passerait par la souffrance. Nous l'entendrons demain nous rappeler que le Seigneur fut familier de la souffrance, tellement défiguré par la souffrance qu'il ne ressemblait même plus à un homme. Voilà donc cet agneau qui vient pour enlever le péché du monde. Cet agneau, nous l'avons entendu, était préfiguré par cet agneau que chaque année, par famille, on devait offrir en sacrifice pour le pardon des péchés de l'année. L'agneau immolé. Cette fois, cet agneau ne vient pas d'ici-bas sur la terre, cet agneau nous est envoyé par Dieu. Jean-Baptiste l'a reconnu juste avant qu'il entre au désert. Voici l'agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde. Cet agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus le Christ, n'est pas un simple agneau comme nous pourrions en admirer dans nos troupeaux, par leur candeur, par leur jeunesse. Non, l'image de l'agneau de Dieu, c'est l'agneau qui devient un mâle et qui, avec cette montée d'hormones qui va faire de lui un mâle, qui se met, c'est la loi du plus fort qui règne dans le troupeau, à se battre avec tous les autres mâles pour savoir qui va être le chef du troupeau. Voilà l'image de l'agneau de Dieu, de notre Seigneur qui est conduit au désert pour vaincre les tentations, le tentateur, cet agneau de Dieu qui vient, qui prend sur lui la souffrance de nos péchés, de nos maladies, de nos deuils, Cet agneau, il vient également combattre le péché, tout autant il vient combattre la conséquence du péché qui est la mort. L'agneau de Dieu, c'est l'agneau qui vient batailler et qui vient pour nous remporter le combat. Le Christ, l'agneau de Dieu, n'est pas motivé par un amour immodéré de la souffrance. Il n'est pas plus motivé par la mort. Ce qui vient habiter son cœur, c'est non seulement d'accomplir la volonté du Père, mais quelle est la volonté du Père qui nous envoie son propre Fils comme l'agneau qui va être immolé sur le bois de la croix? Eh bien, c'est l'amour. Nous entendrons dans la veillée pascale que toute l'œuvre de création est marquée par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est une conjugaison. Il est dans la nature de l'amour de se donner, alors Dieu se donne, même dans ce qui est le plus étranger à lui, la création matérielle. Dieu se donne par cet amour, mais il se donne également parce qu'il est le bien et il est dans la nature du bien de se communiquer. Cet amour qui se donne, ce bien qui se communique, c'est l'admirable mot de bonté. Nous venons de la bonté de Dieu et nous retournons dans notre vie vers cette bonté de Dieu qui nous appelle en paradis. L'amour, le Seigneur en a parlé dans la pédagogie avec laquelle il se révèle. Il le révèle par paliers, cet amour. Cet amour de Dieu est notre colonne vertébrale, la pierre angulaire de toute civilisation. Lorsque l'on enlève Dieu, qui est la pierre d'angle de la civilisation, alors celle-ci peu à peu s'effrite jusqu'à s'effondrer. Lorsqu'on n'a plus Dieu comme colonne vertébrale, on ne sait plus distinguer clairement le bien du mal. On ne sait même plus distinguer l'homme de la femme. On ne sait même plus où est la vie, où est la mort. Le bon Dieu, par amour, vient nous sauver, nous rappelant notamment par les 10 commandements que ce qui est premier pour nous, c'est l'amour de Dieu qui fait que nous sommes debout et que par notre station debout, nous prétendons aux réalités du ciel et de la vie du monde à venir. Mais cet amour de Dieu doit également passer par l'amour du prochain. Alors Dieu, dans sa pédagogie, nous dit qu'il faut d'abord aimer son prochain comme on s'aime soi-même. L'amour légitime de soi est au fondement de l'amour que nous allons pouvoir avoir envers les autres. Puis le Seigneur, qui se révèle dans la perfection de son amour, va rappeler l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Tout cela va habiter les 10 commandements jusqu'à ce qu'il vienne parmi nous. Alors il va nous dire: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le Seigneur nous aime tellement qu'il est descendu du ciel, qu'il s'est fait homme, quel abaissement. Il se fait homme pour que nous, les hommes, puissions le rejoindre, lui, là-haut, dans la patrie, le Dieu d'amour et de vérité. Et il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Lorsque demain nous suivrons le Seigneur qui va se saisir de la croix, nous ne contemplerons pas la souffrance ni la mort, nous contemplerons dans l'admiration de quel amour nous sommes aimés pour que Dieu ait quitté la gloire du ciel pour venir à notre secours. Dans le temps du carême, nous avons entendu saint Paul nous dire « s'il s'agissait encore de donner sa vie pour des hommes de bien ». À la limite, mais donner sa vie pour des pécheurs, eh bien voilà que Dieu nous aime tellement qu'il vient nous sauver de nos péchés, qu'il vient nous sauver du mystère de la mort en nous délivrant du mal. Cette œuvre de salut, nous la trouvons dans le Notre Père. Mais en ce jeudi saint où le Seigneur, à l'avance, anticipe le sacrifice de la croix en instituant la Sainte Eucharistie, voilà que le Seigneur nous donne à entendre la demande centrale du Notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Anticipant, parce que l'amour prend toujours les devants, voilà qu'au soir du jeudi saint, prenant le pain, il dit ceci, le morceau de pain qu'il tient entre ses mains, ceci est mon corps, un corps que les apôtres contemplent. Ceci est mon corps livré pour vous. Le corps n'est pas encore livré, il n'y a pas eu le baiser de Judas, dit l'arrestation du Seigneur, mais je vous dis, l'amour prend toujours les devants. Et pour que nous soit donné le pain du jour de Dieu, eh bien voilà que le Seigneur à l'avance s'offre déjà en sacrifice, il est le corps livré pour les pécheurs. De même prend-il cette coupe de vin en disant ceci, le vin que je tiens, c'est mon sang qui est versé pour vous. Le Seigneur n'a pas encore versé son sang. L'amour prend toujours les devants et il nous dit bien que ce corps livré, que ce sang versé, c'est pour la multitude que nous sommes, la multitude de pécheurs, la multitude de baptisés que le Seigneur appelle de cette terre à la gloire du ciel. Il nous le dit d'ailleurs dans l'Évangile, qui mange ma chair, qui boit mon sang, aura la vie éternelle. Chaque fois que nous communions, frères et sœurs, nous recevons le bon Dieu lui-même qui descend dans nos crèches intérieures. Et en ce jeudi saint, nous faisons mémoire de l'institution de la messe, de ce que nous appelons dans la tradition de l'Église le sacrement de l'amour du Seigneur. Le Seigneur quitte le ciel pour descendre sur l'autel, pour descendre sur cet autel et y demeurer, pour être consommé dans cette communion qui nous unit à lui. Nous ne pouvons pas, ici-bas sur la terre, être plus proche du bon Dieu qu'au moment où nous le recevons dans la Sainte Communion. Et nous devons faire attention avec saint Augustin qui a ouvert pour nous le mercredi des cendres et notre entrée dans le carême à ne pas trop chercher le Seigneur à l'extérieur alors qu'en fait il est à l'intérieur. Lorsque nous communions, le Seigneur descend dans la pauvreté de nos crèches intérieures. Avec les bergers, nous ne pouvons lui présenter que nos pauvretés. Avec les mages, nous lui présentons nos actions de grâce et le bien que nous accomplissons à sa suite. Mais surtout, nous goûtons combien le Seigneur est bon pour venir être pour nous le pain nécessaire pour parvenir au jour de Dieu. Notre Père qui êtes aux cieux, donnez-nous aujourd'hui le pain de ce jour, le jour de Dieu qui déjà se lève. Et Dieu qui nous aime tant, dans cet abaissement par lequel il se fait homme tout en demeurant Dieu pour que nous les hommes rejoignions Dieu dans la hauteur du ciel, est donc un amour qui s'abaisse, un amour qui se donne non pas dans l'orgueil mais dans l'humilité. Voilà pourquoi, juste avant d'instituer le sacrement de son amour, juste avant d'instituer le sacerdoce, car le Seigneur veut passer par la pauvreté des prêtres pour se donner en nourriture. Eh bien lui, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le maître de toute la création, le juge du dernier jour, lui à qui les anges vouent une adoration totale, prend un linge, s'agenouille pour laver les pieds de ses apôtres les uns après les autres. Je ne suis pas venu ici-bas pour être servi. Je suis venu ici-bas pour servir. Il donne ainsi le sens du sacerdoce et à travers lui le sens de la vie chrétienne, qui est cet amour qui se donne sans retard, sans retour, un amour qui communique la vie divine. Alors nous rendons grâce, car le Seigneur est présent. Nous ne le voyons pas encore clairement avec nos yeux, nous le verrons au dernier jour, lorsque dans notre Pâques, qui est le moment de notre mort, au moment de notre Pâques, alors nous verrons le bon Dieu. Pour l'heure, il est caché dans la blanche hostie. Nous ne le voyons pas, mais dans la foi, nous savons qu'il est là. Là, au sacrement de son amour, là, présent au tabernacle, là, présent dans cette église où il nous attend et où nous l'adorons. Voilà donc le sens du Jeudi Saint. L'abaissement de Dieu se dit jusque dans l'abandon de cette blanche hostie où il demeure tout entier présent à nous. Il descend au plus profond de nous-mêmes pour y établir fermement sa demeure, pour nourrir par sa présence notre pauvre foi, nos manques d'espérance, et pour faire en sorte qu'à sa suite nous redoublions d'amour de charité, un amour donc qui n'a aucun intérêt personnel. Puisse donc le Seigneur, en cette semaine sainte, consolider notre foi, nourrir notre espérance comme notre charité. Nous sommes à lui, nous lui appartenons par le baptême, il vient nous nourrir de sa présence. Loué soit-il pour les siècles des siècles. Amen.